Chapitre 12. On était samedi. La plupart des flics du 36 étaient chez eux, en famille. Les rares présents dans les locaux travaillaient sur des dossiers brûlants ou s'abîmaient à combler un retard administratif. Ça et là, dans les couloirs silencieux, on entendait les chants mécaniques des machines à écrire. Le groupe de Titi était quant à lui au complet. Florence continuait à passer des coups de fil, inlassablement, pour tenter de joindre les connaissances de Delphine Escrémieux. Elle cochait ceux qui ne répondaient pas et qu'il faudrait aller chercher à leur domicile, ceux qui décrochaient mais qui n'étaient pas les bonnes personnes à cause d'un changement d'adresse. Le glaive, Titi et Amandier s'occupaient, eux, d'auditionner les gens convoqués, d'établir leurs liens précis avec Delphine, de vérifier leur alibi, de pousser certains d'entre eux dans leur retranchement quand ils le jugeaient nécessaire. Charcot, de son côté, tapa d'une traite le bilan de ses premiers jours de porte-à-porte. Puis, en milieu de matinée, il téléphona au commissariat émetteur des deux télégrammes qui avaient retenu son attention au sujet de l'affaire des disparus du sud parisien. Il posa quelques questions qui lui démontrèrent qu'il faisait fausse route. Retour à la case départ. Il observa la pochette de la bulle sur sa gauche. Elle traînait sur son bureau, une simple table en bois située en plein courant d'air à proximité du fax et du Minitel. On lui avait refourgué la pire place, mais c'était la coutume. Ceux du fond, bien au chaud, au calme et près des fenêtres, étaient les plus anciens. Franck descendit aux archives, remit les télégrammes dans leur boîte et s'accorda une nouvelle heure de fouille dans toute cette paperasse. Malgré les ordres de Titi, il voulait garder le contact avec l'affaire des disparus. Il profita de la pause du midi pour jeter un œil discret dans leur armoire métallique du 514 où s'alignaient les dossiers et diverses bulles d'enquête précédentes. Le jeune inspecteur en compulsa quelques-unes, ne s'intéressant qu'aux numéros de page. Jamais il ne manquait une seule feuille. Chaque membre du groupe prenait visiblement soin de ses notes et évitait qu'elles ne se perdent. En outre, il ne voyait pas bien comment un feuillet avait pu se détacher et glisser tout seul, sans qu'on ouvre les anneaux. Mais pourquoi l'auteur de la page 146 n'en avait-il pas parlé aux autres à l'époque? Personne ne semblait s'en être étonné. Charcot faisait sans doute une fixation pour rien. Pourtant, ça l'obsédait, et il n'arrivait pas à chasser cette histoire de sa tête, un peu comme la mouche tournant sur son dos. Plus tard, Einstein arriva à son tour, alla s'installer à sa place et lui fit signe de venir. « Amène-toi, je crois que je tire quelque chose. » Il avait étalé devant lui et autour de sa machine à écrire les 36 clichés de la scène de crime. « Je suis en train d'essayer de piger l'implication de Vasquez et toute la mécanique qui l'a amené jusqu'ici. Les lettres, le prénom deviné. T'as une idée pour le prénom ?»« Pas la moindre pour le moment, mais j'y réfléchis. En attendant, je me suis penché en détail sur la photo qu'il a dénichée dans la boîte aux lettres. » Einstein désigna une des 36 photos prises à Saint-Forger et demanda à Charcot de lui en parler. « C'est la première de la série. Je me suis positionné à l'identique du tueur lorsqu'il a lui-même immortalisé sa victime. » Einstein acquiesça et lui tendit celle trouvée par Vasquez. « Regarde, si on fait abstraction des traces de fluide liées aux hémorragies, tu ne vois aucune différence entre ton cliché post-mortem et celui du tueur ante-mortem ?» Charcot fronça les sourcils et observa. Le lit, le sac sur la tête. Le livre, posé à côté de la lampe sur la table de chevet. Il n'était pas là avant le meurtre. Exactement. C'est le hors-là et autres contes fantastiques de Maupassant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il l'aurait volontairement abandonné sur la scène de crime?
Oui.
Et ensuite, pssst, il disparaît, comme le hors-là. Charcot sentit le feu monter en lui. Les fleurs du mal, et maintenant le hors-là. Le mal encore. J'ai de vieux souvenirs de cette lecture. Le hors-là, c'est un monstre imaginaire qui pompe jour après jour, nuit après nuit, l'énergie vitale de sa victime jusqu'à la rendre folle. Delphine était traquée par une ombre. Une ombre qui est entrée chez elle sans la moindre trace d'effraction. Une ombre qui a déplacé des objets, à l'identique du hors-là qui buvait les verres de lait pendant le sommeil de sa proie. Einstein lui tapa sur l'épaule. Ton ombre voulait qu'on remarque ce détail. Je crois bien que ce salopard aime la littérature et les intrigues. Ça m'arrangerait bien que t'ailles faire un tour à Saint-Forger et que tu rapportes le bouquin ici.